bonsoir. Ce soir, je vous propose un alter regard sur la prison, mais à travers une bande dessinée. La bande dessinée est maintenant un genre littéraire à part entière. Depuis 2 ans, le livre le plus vendu en France est une bande dessinée. En 2021, la BD Astérix et le Griffon, Ferry, Conrad et Albert René, 1,5 million d'exemplaires. Et en 2022, Le Monde sans fin, Miracle énergétique et dérive climatique, la BD écrite par Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain, qui s'est écoulée à 514 000 exemplaires. Maintenant, les BD traitent de tous les sujets, l'écologie, le genre, les sciences humaines. Il y a de plus en plus de BD, ce que j'appelle des BD engagés. Des livres sont retranscrits en BD. Exemple, Indignez-vous de Stéphane Hessel, maintenant en BD. Plusieurs auteurs de BD ont traité des migrants et des problèmes de migration. La BD permettrait de représenter ce que l'écrit ne permet pas d'exprimer. Mais on verra ça avec mes invités. Mes invités ont choisi la bande dessinée pour parler de la prison. Donc je vais tout d'abord leur demander de se présenter. Donc Rosanna.
Bonsoir, je m'appelle Rosanna Landom. Je suis avocate au barreau de Grasse. Et puis je suis très intéressée par la question pénitentiaire. Et voilà, il y a Fabrice qui va se présenter aussi, un ami de longue date. Donc on a monté ce projet-là ensemble.
Et on va y revenir sur le projet après. Mais vous êtes avocate et vous êtes aussi la LDH, il faut le dire.
Oui, voilà. Je suis toujours membre de la Ligue des droits de l'homme. J'étais notamment plus investie dans la section niçoise pendant quelques années. Maintenant, j'ai déménagé, donc c'est un peu plus loin. Mais également dans d'autres associations, notamment la 3D, qui est l'association de défense des droits des détenus, association d'avocats qui défend les droits des détenus. Je suis également membre de l'OIP, Observatoire international des prisons.
Voilà, merci. Et Fabrice Rinaudot.
Oui, bonsoir Michel, je suis Fabrice Rinaudot. J'ai scénarisé cette bande dessinée « Prison ». Pour la petite histoire, pour moi, ça a été quelque chose d'assez nouveau parce que c'est un univers que je ne connaissais pas du tout, dans lequel je me suis plongé pour ce travail-là. Autrement, auparavant, j'étais éducateur spécialisé et puis depuis une dizaine d'années, je travaille en bibliothèque.
Alors, la première question qui vient, c'est pourquoi avoir choisi la forme de la BD pour parler de la prison ?
Mais probablement que pour répondre à ça, il suffit de remonter à la genèse de,
du projet. Alors, on commence dans l'autre sens. On dit comment est venu ce projet de BD. Donc, vous êtes trois. Après, on reviendra sur qui fait quoi. Mais il y en a deux à Montreuil et un à Nice. Donc, comment vous avez construit ce projet de BD? On voit pourquoi avoir choisi la BD, c'est ça?
Eh bien, c'est ça. On l'a construit autour d'un apéritif, cette bande dessinée. C'est un apéritif où Rosanna était présente et elle est arrivée en parlant de exceptionnellement de son travail. C'est quelque chose qu'elle fait très rarement et elle nous a alerté sur les conditions de détention des détenus et on a décidé à ce moment-là de travailler autour d'une bande dessinée. On s'est posé plusieurs questions autour du support, la BD, le théâtre, le cinéma et tout un tas de choses comme ça. Et le fait est que par rapport aux compétences des uns et des autres, on s'est réunis autour d'une bande dessinée parce qu'on connaissait Sylvain et Yann du lycée. Eux, c'est leur travail au quotidien. On les a contactés pour parler de ce projet. Ils ont adhéré à ce projet. Dans un premier temps, ils en ont parlé à l'éditeur. La
boîte à bulles, ouais, on le recitera après, mais bon, il faut le citer quand même.
Oui, et puis eux étaient intéressés, la boîte à bulles aussi. Donc j'ai commencé à travailler avec des documents donnés par Rosanna. Sur ce projet, le scénario a été validé et puis Sylvain et Yann ont continué à faire le travail de leur côté.
D'accord. Alors, donc effectivement, pourquoi avoir choisi la BD? C'est après avoir examiné toutes les possibilités d'expression de ce que Rosanna vivait finalement en tant qu'avocate au barreau.
Il y a aussi le fait que le thème de la prison a déjà été beaucoup étudié sous différentes formes. Mais c'est beaucoup de chiffres, beaucoup d'études, on va dire, plus savantes. Et le fait de le mettre sous forme de bande dessinée, ça donnait aussi, ça permettait de mettre de l'humanité derrière, ça permettait de mettre des gens derrière des histoires, donc qu'on puisse s'identifier, ou en tout cas avoir de l'empathie envers ces personnages, ce qu'on ne peut pas avoir vis-à-vis de chiffres. qui reste quelque chose de très abstrait et de très froid. Donc le format de la bande dessinée pour ça était adapté, tout indiqué pour ces raisons-là aussi.
Alors, donc là vous êtes trois. Est-ce qu'on peut voir qui fait quoi ? Donc il y a un scénariste, donc Fabrice, donc vous avez écrit l'histoire, c'est ça, le travail du scénariste, c'est ça. Après, il y a un qui a fait les... Alors, c'est là où j'étais embêtée, parce qu'en fait, les deux sortent des arts décoratifs de Strasbourg. Ils étaient copains de promo, non ? C'est un peu ça ?
Oui, c'est exactement
et,
ça.
Et donc, le qui fait quoi, je n'ai pas su dire.
Eh ben, je vais vous dire, il y a Anne Royan qui s'est occupée des décors. Elle a modélisé prison et cellule pour travailler sur les décors. Et Sylvain Dorange, lui, a travaillé sur les personnages. Et les ambiances et les couleurs reviennent à Anne.
D'accord. Donc, alors,
se sont partagés le travail comme ça.
Comme ça. Et les textes, c'est les textes qui a rédigé. Et
les textes, c'est moi. J'ai fait le travail du scénario et du découpage de la bande dessinée. Elle est organisée en quatre chapitres. Mmh. Et chacun de ces chapitres aborde des thèmes différents liés à l'univers carcéral. Et c'est comme ça que s'est organisée la bande dessinée.
Oui. Alors, ce que j'ai trouvé... moi, je suis pas du tout BD, mais vous avez choisi de présenter donc à travers, par la BD, des histoires humaines de la vie en prison. C'est exactement ce que vous disiez. Vous n'êtes pas parti des chiffres, de données, mais vous avez raconté la vie de quelques prisonniers. Et ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. C'est une approche intéressante parce que vous êtes parti de l'humain. Et alors là, vous l'avez décidé à tous les trois, cette approche, c'est le scénariste qui propose.
Ça, je dois dire que c'est moi qui l'ai fait. Mmh. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est par rapport à une somme de documents que m'a donné Rosanna, ou et d'autres que j'ai trouvé par ailleurs. Je crois que le document principal que j'ai utilisé, ça a été un rapport de l'OIP de 2020 ou 2019.
Mmh. Merci de en parler après, justement.
Ouais, sur lequel je me suis beaucoup appuyé. Et en lisant ce rapport et en faisant tout un tas de travail de documentation sur cet univers carcéral, je me suis rendu compte qu'il y a des thèmes qui émergent qui sont incontournables. Le premier, c'est la surpopulation, on en reparlera, et puis il y en a beaucoup d'autres. Et si vous voulez, sur chacun de ces thèmes, j'ai accolé un personnage, parce que j'ai lu aussi d'autres choses autour de ça, et j'ai associé des trajectoires humaines à des thématiques de la prison.
Oui, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous avez choisi de parler de l'humain. Et alors, la rencontre avec la LDH, bon, à part Rosanna, d'accord, mais la LDH est partenaire, j'allais dire, de ce projet. Comment s'est passée la rencontre avec la LDH ? C'est vous qui en avez parlé ? Comment ?
Alors, la LDH, les membres de la LDH de Nice, on les connaît bien. Enfin, moi, je les connais bien. Fabrice s'est rapproché d'eux parce que maintenant, il habite à Nice, donc c'était plus simple pour lui. Mais c'est vrai que ça a été assez naturel. Hein. C'est une des thématiques sur laquelle la Ligue des droits de l'homme travaille depuis longtemps, entre autres thématiques. Mais la thématique de l'enfermement et de l'emprisonnement, c'est un des axes de bataille de cette association séculaire maintenant. Donc ça s'est fait assez naturellement. La LDH de Nice a relayé au niveau de la LDH nationale, qui ont été assez enthousiastes, et ça s'est fait de façon assez fluide et simple.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
Ils sont partie prenante du projet. Absolument, leur travail, leur regard associatif et le recul qu'ils peuvent avoir, les données qu'ils peuvent avoir recueillies, aussi leur légitimité, parce que tout le monde n'est pas la LDH, c'est une association qui force le respect. Donc, qu'ils valident aussi ce travail-là et qu'ils en soient partie prenante, on les en remercie parce que c'est important pour nous.
Il y a eu des relectures par des personnes experts, entre guillemets, là, avant publication. La LDH, je suppose qu'il y a eu une relecture par la LDH.
La LDH a lu, elle n'est pas intervenue sur des corrections par rapport au texte. Ça a été le travail de l'éditeur en partie. Rosanna, tu avais donné ton avis aussi.
Mais
la LDH a validé, cautionné le projet après avoir lu le scénario et eu quelques planches en main.
D'accord. Alors, on va se retrouver après un peu de musique.
Town. See, me and the boys, we don't like it. So we're getting up and going down. High to low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best. We move away, do you hear what I say? From under my breath. Some of us won't survive. See the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like a game, if you lose, go to jail.
Bonsoir, donc nous nous retrouvons pour un alter regard sur la prison. À partir de maintenant, je vous propose de parler de la prison, de la vie en prison. Qu'est-ce qu'on constate ? Que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour traitement inhumain et dégradant en prison, les conditions de détention imposées, le non-respect du droit à un recours, et la Cour constatait que les taux d'occupation des prisons relever l'existence d'un problème structurel et recommander à la France l'adoption de mesures générales visant à supprimer le surpeuplement et à améliorer les conditions matérielles de détention. Donc après, on verra si la France respecte ce qui était recommandé par la Cour européenne des droits de l'homme. De son côté, la défenseuse des droits a dénoncé les conditions de vie inhumaines dans les prisons. Alors là, vous pouvez nous expliquer, parce qu'on parle toujours de la défenseuse des droits, mais il y a aussi le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ça relève de la même structure. Vous, vous êtes membre de l'Observatoire international des prisons. Là, on est sur trois structures différentes.
Absolument. Alors, l'Observatoire international des prisons, c'est une association.
Et qui est autorisée à rentrer dans les prisons?
Alors, pas de manière libre, elle n'a pas ce pouvoir d'enquête-là, mais ça fait partie, par exemple, des numéros de téléphone privilégiés qu'on trouve dans les cabines téléphoniques et que les prisonniers peuvent appeler. Ils ont une base de données, des informations, ils sont le relais d'énormément d'incidents et de choses qui se passent en prison. Et aussi, ils sont source d'initiatives à niveau juridique et judiciaire. Et toute la campagne qui a abouti à la condamnation de la France, notamment en 2020, par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une campagne contentieuse qui a été menée par l'Observatoire international des prisons. D'ailleurs, la maison d'arrêt de Nice était concernée par plusieurs requêtes dans le cadre de cette Cour européenne des droits de l'homme, notamment le quartier femme de la maison d'arrêt de Nice. Alors, le défenseur des droits et le contrôleur général des lieux de privation de liberté, ce sont deux autres types de structures, ce ne sont pas des associations, ce sont des autorités administratives indépendantes qui ont un pouvoir d'enquête, alors dans des circonstances prévues et des conditions prévues par la loi, ce n'est pas en concurrence avec les pouvoirs, par exemple, du procureur de la République, c'est défini de façon législative, mais toujours est-il, ils peuvent enquêter, demander des comptes et rendre des avis qui sont publiés au journal officiel. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est actuellement présidé par Madame Dominique Simoneau, il est donc spécialisé dans les lieux d'enfermement. Alors, ça concerne la prison, mais pas que la prison, parce que ce n'est pas le seul lieu d'enfermement en France. Il y a aussi, par exemple, les geôles des commissariats et des gendarmeries. Oui. Il y a aussi les hôpitaux psychiatriques, quand les personnes sont hospitalisées, le lapsus, hospitalisées sans leur consentement, c'est un lieu d'enfermement. Il y a aussi certains
centres de rétention,
centres de rétention administratifs pour les étrangers. Tout ça, ce sont des lieux où les gens sont privés de leur liberté. Donc, le contrôleur général des lieux, CGLPL, a des compétences particulières en la matière. Il peut enquêter, il peut rendre des avis. Le défenseur des droits, il peut. Alors, c'est pas en concurrence parce que c'est un terrain qui peut des fois. Enfin, en général, on saisit les deux. Mais défenseur des droits, il a aussi une compétence en tout ce qui concerne la déontologie. Ça peut être des policiers, des gendarmes, mais également des surveillants pénitentiaires. Donc, quand vous voyez que ça peut aussi quand il y a un comportement qui est anormal, qui n'est pas normal ou pas adapté en détention, on peut saisir le contrôleur général, mais on peut saisir également le défenseur des droits qui peut rendre un avis spécifiquement sur la déontologie des surveillants pénitentiaires qui sont intervenus dans tel ou tel incident qui leur est signalé. Mais ce sont des autorités administratives indépendantes, c'est pas des associations comme la Ligue des droits de l'homme ou comme l'OIP.
D'accord. Et il y a un autre rapport du Sénat de 2000 sur les conditions de vie en prison aussi, qui, lui, est particulièrement sévère aussi. Donc, les parlementaires se sont aussi penchés là-dessus. Donc, nous allons regarder de plus près ces conditions de vie. Alors, vous dites qu'il y a la promiscuité, on sait, la surpopulation, mais vous montrez aussi qu'il y a de la solidarité. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, donc c'est peut-être Fabrice, au niveau de toutes ces lectures et de la construction du scénario, qui a voulu montrer aussi qu'il y avait de la solidarité dans les cellules, dans les prisons.
Oui, c'est ce que j'ai remarqué en faisant toutes ces recherches. Là, une des solidarités qui est montrée dans la bande dessinée sur une des scènes, c'est un détenu qui se fait casser la figure par des surveillants, qui met un temps très long à s'en remettre. Et la solidarité des autres détenus, c'est de prendre soin de lui. C'est d'être un plutôt petit soin. Ça, c'est dans une deuxième partie de l'incarcération de ce personnage. Et avant ça, c'est un personnage qui craquait psychologiquement en étant en prison. Et son premier co-détenu l'a aidé à supporter tout simplement ses conditions de détention, quoi. Parce que tout simplement, c'est un gars qui, l'histoire dans la BD le dit, c'est un gars comme vous et moi qui se retrouve incarcéré du jour au lendemain pour une question d'ivresse, pour une situation de... Il a été contrôlé plusieurs fois, il se retrouve presque du jour au lendemain en prison et il perd tout, c'est-à-dire il perd sa famille, il perd son boulot, son entreprise et il s'effondre parce que c'était pour lui quelque chose qui était vraiment inenvisageable. Je veux dire par là que son parcours de vie n'aurait pas dû l'amener à ça.
Et alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir que de la violence, et non pas cette solidarité. Et par rapport à la surpopulation, donc là, je me tourne vers Rosanna, est-ce que la France... on entend parler de construction de prison, mais d'abord, est-ce que c'est la bonne solution ou bien on verra effectivement les alternatives après? Mais quand on parle de surpopulation, on entend qu'on va construire.
C'est exactement la réponse qui est apportée depuis décennies par nos gouvernements successifs, hein, quels qu'ils soient. C'est construire de plus en plus de prisons. Or, on voit bien que ce n'est pas le fait de construire qui entraîne une diminution de la surpopulation carcérale. Il y a des places, on les remplit, c'est tout. En réalité, les prisons n'ont d'autre choix que d'accueillir les personnes qui y sont condamnées. Ce qu'on constate au niveau judiciaire, c'est une augmentation du nombre d'infractions, une augmentation de la pénalisation de certains comportements. Les peines planchers à l'époque de Sarkozy, quand il était président, ont laissé des séquelles, puisque ça a augmenté en réalité, même si les peines planchers ont disparu, on a constaté que les peines qui étaient prononcées par les juridictions ne sont pas descendues en deçà des peines planchers. Donc vous voyez, on est dans une logique répressive qui ne s'arrête pas. Et il n'y a pas de système de rétro-contrôle, ce qui est demandé d'ailleurs par les associations, c'est-à-dire à un moment donné, dire la prison dit « attention, là, on a atteint notre maximum, donc stop, arrêtez de nous envoyer des gens en prison, ou alors faisons en sorte de libérer ceux qui peuvent être libérés à assez court terme ». Ce système-là de contrôle n'existe pas, et c'est quelque chose qui est demandé par les associations, ce serait bien de le faire. Mais on constate effectivement que tant qu'il y a des places de prison qui sont construites, et bien elles seront toujours remplies. C'est ce qui se passe depuis des décennies. Donc l'horizon qui paraît être le seul envisageable par nos gouvernements de construire encore des prisons, bah, ça ne va rien changer. C'est comme ça depuis des dizaines d'années.
Et l'autre volet, c'est quand même la vétusté des prisons, des cellules. Bon, la prison de Nice, par exemple, on sait qu'elle devrait être démolie, reconstruite ailleurs,
oui,
depuis
alors,
très longtemps.
Absolument. Je vais revenir quand même un petit peu sur cette question de surpopulation, parce que c'est, voilà, c'est encore un terme facile à dire, mais rendez-vous compte ce que c'est surpopulation. C'est dans une cellule de 9 mètres carrés. 9 mètres carrés, il y a peut-être parmi les auditeurs des gens qui sont en cité universitaire, qui savent, donc c'est à peu près la taille d'une pièce de cité universitaire, où on peut être entassé à 2, 3, 4 personnes là-dedans, vivre là-dedans, 22 heures sur 24, avec les toilettes qui sont dans cet espace-là. C'est ça la surpopulation carcérale. Et la vétusté, eh bien ça peut être, et la saleté, ça peut être des rats, ça peut être des cafards. Moi, j'ai eu une personne détenue que j'ai défendue, qui s'était amusé, si je peux utiliser ce terme-là, c'est pas le bon terme, mais c'est celui qui me vient à l'esprit, à collecter les cafards qui se baladaient dans sa cellule et les mettre dans un petit bocal pour les montrer le lendemain à la juge d'application des peines et lui montrer dans quelles conditions il vit. Concrètement, c'est ça, la vétusté, la saleté, la surpopulation.
Il ne manque aucune intimité, 3 douches par semaine, et encore, ce n'est pas toujours respecté. Et en plus, non pas une douche fermée où on est tranquille, quoi.
Alors, dans les nouvelles prisons, celles qui sont en train d'être construites, on fait des progrès sur ce point-là. Par exemple, je sais qu'au centre pénitentiaire de Toulon, à Draguignan aussi, il me semble, mais également aux nouvelles prisons des Baumettes, les douches se trouvent dans la cellule, ce qui est bien sûr un confort... Ça évite bien des problèmes. Il y a aussi les cabines téléphoniques qui sont des fois dans les cellules, et même à Grasse, qu'on envisage de mettre dans les cellules, parce que là aussi, quand on doit sortir à la cabine pour appeler ses proches, bah, c'est toujours source de tension. C'est à ce moment-là qu'il y a des frictions avec les surveillants, avec les autres détenus. C'est quand on est forcément limité dans ses mouvements et qu'on veut essayer d'obtenir quelque chose qui peut être un droit, mais ça ne correspond jamais, c'est jamais le bon moment, et donc ça provoque des tensions. Donc c'est une bonne chose.
Et les toilettes dans les cellules, où ils sont 3 ou 4
Oui, alors là, on développe des petites techniques comme on peut pour masquer les odeurs, ouvrir les fenêtres, même en plein hiver. À la maison d'arrêt de Nice, par exemple, les détenus m'avaient rapporté qu'ils brûlaient de l'écorce d'orange pour essayer de masquer les odeurs, mais c'est quelque chose qui n'est pas digne. Hein.
Et la santé, pardon,
Oui, non, pour revenir complète, un petit peu sur la vétusté. Il y a l'état des murs, les dégradations sur les murs, l'humidité, ça peut être... Ça, c'est quelque chose qui se voit souvent. Et j'ai aussi souvenir d'un reportage où les détenus disaient que la fenêtre était complètement cassée. Donc, en plein hiver, ils se prenaient le froid. Et ce genre de choses. Et ça met des mois parfois à être réparé.
Alors, après, il y a la question de la santé. Il vaut mieux pas être malade. Là aussi, dans les exemples, il y en a un qui est malade. Et qui est un peu soutenu par ses collègues, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un des thèmes qui est abordé, c'est la difficulté de l'accès aux soins quand on est en détention. L'histoire raconte qu'un détenu demande à avoir un infirmier qui traîne pour des raisons de communication interne. L'infirmier traîne à passer, et puis la fin pour ce détenu est relativement tragique et il souffre et puis il est pris en charge beaucoup trop tard, quoi. Et ça, cette histoire-là, qui n'est peut-être pas une généralité, c'est quand même des choses qui arrivent, qui sont arrivées et que j'ai pas pondu uniquement par mon imagination.
D'accord, c'est une réalité dans la vie en prison.
Exactement.
Et les prisonniers qui sont psychologiquement fragiles aussi, donc qui ont Vous parlez à un moment d'un prisonnier qui suicide.
Oui, alors il y a deux cas par rapport à... Alors il y a le prisonnier qui se suicide, comme vous dites, parce qu'il ne supporte pas les conditions de détention qui sont infernales et insupportables. C'est celui dont on parlait tout à l'heure qui a tout perdu, qui est passé à tabac et qui prend la décision de se suicider. Et puis il y a aussi, peut-être c'est ça dont vous vouliez parler, de l'emprisonnement des personnes, je vais dire comme ça, folles, enfin les fous, ou même les fous qui n'ont pas leur place en prison, mais qui se retrouvent en prison. Il y a aussi ça qui est dit, oui. Mais ça c'est 20% des personnes qui sont en prison.
Je pense que la moyenne peut être, qu'on peut augmenter ce chiffre-là. En tout cas, nous, moi j'ai eu plusieurs fois rencontré dans le cadre de mon exercice professionnel, et c'est quelque chose devant lequel on se sent assez démunie en réalité, parce que tout le monde voit bien que la place de ces personnes-là n'est pas en prison. Et même, je vais vous dire, au-delà d'être en prison, ils peuvent être mis dans des quartiers spéciaux, qui sont les quartiers d'isolement, où ils ont encore moins de contact avec d'autres personnes, où ils ont moins de promenades, ou alors dans des conditions particulières. Et ce qui ne fait qu'aggraver leur pathologie psychiatrique, ils y sont pour de nombreux mois, beaucoup trop longtemps, pour protéger, on va dire, le reste de la population pénale, population incarcérée. Mais eux, ça a des effets délétères sur eux, ce qui fait qu'ils deviennent... des fois, c'est tellement insupportable qu'ils en deviennent agressifs. Donc, ils vont au quartier disciplinaire, qui est encore plus rude que le quartier d'isolement. Et ils font des allers-retours entre les quartiers disciplinaires et les quartiers d'isolement, qui sont les quartiers les plus compliqués dans les prisons. Et voilà le seul horizon qui leur est proposé. Parce que la chaîne du soin ne suit pas, parce que les procédures mettent du temps, parce que même quand on lance des procédures, on n'a pas forcément l'oreille attentive des magistrats derrière, notamment par exemple au tribunal administratif. Alors soit c'est un domaine qui est relativement méconnu, soit c'est aussi une volonté. Enfin, je veux dire, ça reste des juridictions administratives, c'est une particularité très française. Ce sont des gens qui sont issus des administrations, qui deviennent à un moment magistrats administratifs. Enfin bref, et la juridiction suprême de ces juridictions-là, c'est le Conseil d'État, qui, comme son nom l'indique, conseille l'État. Donc ils ne sont pas forcément toujours du côté des plus faibles. Ils peuvent l'être, mais ils ont rendu récemment des décisions qui étaient assez décevantes, on va dire, du point de vue du droit des personnes détenues et des conditions de détention. À rebours de ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, notamment. Voilà.
Alors, après, il y a la question se pose de la vie quotidienne, et donc de ce qu'on appelle cantiner, mm-hmm. et la question du travail. Donc, on sait qu'il y a un désœuvrement qui est difficile à vivre aussi, parce qu'il y a un problème d'accès au travail, en fait, en prison. Et puis, est-ce que ce travail est valorisant ? Pas vraiment.
Et oui, c'est ça, parce que le travail en prison, il n'est pas accordé à tout le monde. Je crois peut-être, Rosanna, tu pourras parler des conditions d'obtention d'un travail en prison, parce qu'il semblerait que ce soit très arbitraire et aléatoire. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le travail en prison, il est très peu payé. Soit les détenus sont payés par l'administration pénitentiaire, soit ce sont des entreprises de l'extérieur. Qui viennent et qui sous-traitent finalement. Et ça, d'ailleurs, ça génère une espèce de concurrence avec les salariés de l'extérieur. Mais les chiffres, je les ai peut-être là, c'est 30% du SMIC brut pour un détenu. Et il n'y a pas de droit du travail en prison.
Oui, non, pardon, effectivement. Mais c'est le seul moyen qu'ils aient de faire 3 sous.
Alors, oui et non. Je vais revenir un petit peu quand même sur ces entreprises qui emploient, si je peux utiliser ce terme-là, ou qui exploitent, ce serait le terme le plus judicieux, les personnes qui sont en détention, parce que ce sont des entreprises qui ont les moyens, ce sont des entreprises qui sont même des fois classées, cotées en bourse, qui peuvent l'être, en tout cas, ou des filiales de ces entreprises-là, et qui exploitent ces personnes détenues pour du travail qui s'assimile beaucoup à du travail à la tâche, qui n'existe plus, en tout cas qui est interdit en France quand même depuis le Moyen-Âge, mais qu'on retrouve quand même en détention. D'ailleurs, dans le livre de la BD, il y a aussi une anecdote qui concerne spécifiquement la maison d'arrêt de Grasse, puisque Ça fait la une des journaux à un moment, enfin la une, ça a été dans les journaux, où on mettait des personnes qui étaient des fois condamnées pour des faits de délinquance sexuelle, à qui on a demandé d'emballer des sextoys dans des ateliers de travail. Donc là aussi, vous voyez bien qu'il n'y a aucune réflexion sur ce travail qui est fourni. Est-ce qu'on en sort vraiment meilleur? Est-ce que ces personnes qui ont été condamnées pour ces faits-là, est-ce que le travail ce travail-là tel qu'il est proposé est une issue? Donc vous voyez bien qu'on est au niveau zéro de la réflexion. D'autre part, comme le disait Fabrice, on gagne presque rien. Et il y a un catalogue qui est distribué périodiquement aux personnes détenues avec les produits qu'ils peuvent cantiner, c'est-à-dire qu'ils peuvent acheter pour améliorer un petit peu leur quotidien. Mais il faut savoir, par exemple, moi j'ai eu le cas de toujours cette personne-là qui avait collecté ses cafards, qui travaillait, mais une partie de sa paye devait aller à acheter des produits anti-cafards, ce qui n'est pas normal parce que ce sont des conditions qui lui sont imposées et c'est sur lui, donc avec son travail, donc qui était déjà payé une misère, qu'il devait prendre sur ses propres deniers pour pouvoir essayer d'améliorer un petit peu son quotidien. De ce point de vue-là, c'était quelque chose qui, moi, m'avait assez choquée. Et il y a aussi, pour les personnes qui ne travaillent pas, parce que oui, effectivement, ça peut être une récompense, hein, le travail, quelqu'un qui a un comportement qui ne se fait pas trop remarquer, qui est plutôt fiable, on peut le mettre au travail, à certains ateliers. Il faut savoir aussi, d'ailleurs, que les détenus, ce sont eux qui confectionnent les vêtements des surveillants pénitentiaires. Hein. C'est pour vous dire à quel point ça va loin. Donc,
Il y a des aiguilles, non? C'est ça,
j'en sais rien, ils peuvent laisser des mots, j'en sais rien. En tout cas, c'est eux qui confectionnent ces vêtements-là. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'indigence, c'est-à-dire pour les personnes qui n'ont vraiment aucun soutien familial, rien du tout. Il y a quand même un minimum qui est prévu par l'administration pénitentiaire. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête. À un moment, c'était 20. Je me demande si on n'est pas passé à 40. Bon, il faut que je fasse une petite actualisation. Mais qu'il y a un minimum qui est donné à ces personnes indigentes pour qu'elles puissent acheter de quoi améliorer un petit peu leur quotidien, ne serait-ce qu'un frigo, ne serait-ce qu'une plaque pour pouvoir faire cuire les aliments. Parce que tout ça, ce n'est pas forcément fourni. Une télévision, parce que pour passer 22 heures dans une cellule de 9 mètres carrés, des fois, c'est la seule occupation qu'il peut y avoir.
Et donc, et la formation, parce qu'il y a des formations en prison aussi. Là, c'est pareil, c'est assez compliqué d'y rentrer.
Je pense que c'est la même, il me semble que c'est la même difficulté, c'est-à-dire que les places sont relativement rares. Les intervenants aussi, les créneaux horaires aussi. Et puis, je vais vous dire quelque chose, c'est-à-dire que pendant le Covid, ça a quand même mis un coup d'arrêt aussi à pas mal d'activités de ce type-là, même au quartier mineur. Ils avaient à un moment des activités cuisine ou ce genre de choses qui ont été arrêtées. Alors les ateliers, enfin les locaux sont toujours là, mais la dernière fois que j'y suis allée, il ne s'y passait plus rien. Donc c'est pas satisfaisant. Pas satisfaisant du tout.
Accord à côté sur.
Alors après tout ça, on essaye d'en sortir. Et donc, ça pose tout à fait la question de la réinsertion. Est-ce que vous avez rencontré donc, des prisonniers qui allaient se réinsérer, et puis de façon bien, quoi, en fait.
T'en as rencontré, toi, Rosana?
Vous pouvez préciser votre question?
Qui se sont réinsérés après un passage en prison
C'est le but, en fait, la prison, deux buts qu'elle s'assigne, c'est un, de mettre à l'écart de la société des personnes qui sont en danger.
L'idée de base de la prison, c'était protéger la société.
Et permettre à la personne qui y rentre d'en sortir meilleure.
D'accord.
Mais on constate qu'en fait, les politiques publiques depuis des décennies, elles se sont focalisées sur le premier objectif, donc qui est juste d'éloigner, de mettre à l'écart des personnes qui ont été condamnées, les mettre à l'écart de la société.
C'est devenu une punition. Alors que l'objectif, c'était pas ça.
C'est de les mettre à l'écart. C'est de les mettre à l'écart. Et de protéger aussi les personnes qui y travaillent. Et maintenant, tous les moyens vont, j'ai l'impression, dans un objectif sécuritaire. On n'est plus tant dans la réinsertion, mais on est dans les moyens qui sont donnés aux agents pénitentiaires, les moyens, ne serait-ce qu'au niveau de vestimentaire, les moyens de surveillance, ce genre de choses, plus de places de prison. J'ai l'impression qu'on néglige beaucoup, en tout cas qu'on ne met pas les moyens qu'on devrait mettre dans tout le volet réinsertion, le fait de pouvoir mettre 3 sous de côté pour... Si quelqu'un est rentré pour vol en prison, eh bien, si en prison il n'a pas pu travailler, mettre 3 sous de côté, en sortant sans accompagnement, en sortie sèche, ce qu'on appelle, sans aménagement de peine, il va sortir déjà avec les effets désocialisants de la prison, il aura perdu peut-être... son logement, il aura perdu peut-être son emploi s'il en avait un, parce que c'était un emploi fragile, peut-être que ça aura distendu les liens familiaux qu'il pouvait avoir, parce que c'est jamais facile d'avoir un de ses proches qui est en détention, aller lui rendre visite au parloir. Donc quand il va sortir et qu'il va se retrouver avec son paquetage et rien à manger et devoir se déplacer, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, ce qu'il sait faire de mieux. S'il est rentré pour voler, ben, il va voler. S'il est rentré pour trafic de stupes, il va retrouver ses anciens camarades qui l'ont amené là-dedans. Et je vais vous dire, peut-être même encore plus grave, parce qu'il se sera fait de nouvelles connaissances en prison qui vont faire que ben, ce sera peut-être encore pire, parce que l'accompagnement n'aura pas été bon et suffisant.
Oui, vous voulez compléter?
Oui, c'est ça. Souvent, on associe la réinsertion par le travail. Et là, en fait, ça marche pas, parce que j'entendais des détenus qui disaient qu'ils faisaient un gros travail dans la prison pour se former. Et en amont de leur libération, ils appelaient des entreprises. Et ils se prenaient des portes en pleine figure, parce qu'après avoir posé 2-3 questions, la personne au bout du fil leur disait qu'une des conditions pour pouvoir postuler, envoyer un CV... On pourra parler du CV d'ailleurs, de qu'est-ce qu'on met dans un CV quand on a été emprisonné. Mais une des conditions, c'était un casier judiciaire vierge. Alors là, le moral des gars, il était vraiment au plus bas, quoi.
Et puis, il ne faut pas oublier aussi dans quelle société on vit. On est dans une société du tout numérique. Et il faut savoir qu'en prison, les personnes détenues n'ont pas accès à Internet. D'ailleurs, les associations militent pour qu'on puisse avoir accès à Internet. Alors pas de façon débridée, encadrée, certains sites... Mais pour faire des démarches auprès de Pôle emploi, pour faire des démarches de relogement auprès des associations, ils sont entièrement dépendants des intervenants extérieurs ou alors de leur famille, pour faire la moindre demande. Ce qui fait qu'entre le moment où ils font un courrier et le moment où leur courrier est lu, voilà, y a une réponse qui vient, et ben le temps s'est écoulé et ça n'a plus trop de pertinence. Donc ces associations militent pour que les personnes détenues puissent avoir un accès en détention. Et ça participe aussi de la réinsertion, puisque c'est quand on se prend aussi soi-même en main que ça responsabilise, qu'on réfléchit aussi sur les actes, sur ce qu'on a envie de faire, plutôt que de s'en remettre aux autres, puisque finalement, c'est ce qu'on leur reproche aussi, quoi. Donc, donnons-leur les moyens de se reprendre en main.
On se retrouve après un peu de musique.
Of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone, and breaking the rocks on the chain gang, breaking out and heading home. I'm gonna make a change. The sky. I'm gonna make a jailbreak. I wish that I could fly. All in the name of liberty. All in the name of liberty. Got to be free. Let me out. We'll be right back.
children were racing.
Freedom!
He was chasing.
Bonsoir, donc nous nous retrouvons pour un alter regard sur la prison. Alors, nous avons avec nous dans le studio Katia, qui est avocate stagiaire et qui a découvert, dans le cadre de sa formation d'avocate, bien sûr, la prison. Et j'en aimerais bien l'entendre, entendre sa réaction entre donc, ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a constaté, puisqu'elle a fait des visites en prison dans le cadre de son stage, et puis ce sur quoi nous venons d'échanger. Donc elle nous donne son regard, son point de vue sur tout ça.
Déjà, bonsoir à tous. Effectivement, j'ai eu la chance, puisque je pense que c'est une chance, de découvrir un petit peu l'univers carcéral via mon stage final en cabinet d'avocat, donc avec maître Rosanna Landom. J'ai eu l'occasion notamment de découvrir les commissions d'aménagement de peine et les commissions de discipline. Donc c'est lorsque les détenus commettent des fautes disciplinaires, telles par exemple qu'un outrage, qui sont jugés par une commission de discipline. Moi, ce qui m'a le plus surprise, je dirais, c'est qu'on nous apprend pendant 7 longues années d'études de grands principes, notamment ceux institués par la Cour européenne des droits de l'homme, et on s'aperçoit qu'ils ne sont pas respectés en détention. Je pense notamment aux conditions de fouille intégrale des détenus. Par exemple, on ne peut pas leur demander de faire défection, on ne peut pas leur écarter le fessier pour voir s'ils y cachent tout simplement des objets, et on se rend compte qu'ils n'hésitent pas à le faire. Et personnellement, j'ai l'impression que nous, en tant qu'avocats, on n'est pas entendus sur ces questions, sur ces conditions, quand on soulève par exemple l'atteinte à la dignité, quand on soulève l'article 3, à savoir l'interdiction de traitement inhumain et dégradant. J'ai pas l'impression qu'on soit spécialement entendu, notamment dans le cadre des commissions de discipline. Donc, assez déçu, finalement, je dirais.
Et tout à l'heure, on a parlé de la sortie, de la réinsertion. Donc, vous avez assisté à des commissions sur l'aménagement de peine, tout ça ?
Oui, quelques-unes.
Alors, dites-nous votre impression. Parce que là, vous étiez observateur.
Moi, je pense que c'est très bien que les peines soient aménagées, puisque ça aide, comme on le disait tout à l'heure, à réinsérer les détenus et à essayer à ce qu'ils recommencent leur vie d'une autre manière. Trouver un travail, il y a notamment des suivis par le SPIP, le service d'insertion et de probation, qui aident des détenus à recommencer une nouvelle vie.
Et ça vous paraît efficace, responsable par rapport à la situation de ces personnes ?
Personnellement, je plaide plus contre une sortie sèche et pour des aménagements de peine. Où on peut suivre les détenus et où ils peuvent préparer leur sortie.
Alors, dans les textes, à partir de quel moment d'emprisonnement ils peuvent demander un aménagement ?
C'est variable selon la situation de chaque détenu. Il n'y a pas de texte fixe.
Mais les longues peines, ils peuvent demander aussi ?
Voilà, ça dépend de tout un tas de choses, notamment de la période de sûreté. S'il y a par exemple 2 ans de période de sûreté qui sont prononcées, le détenu devra purger ces 2 ans pour après ensuite faire une demande d'aménagement de peine à ce moment-là.
D'accord, et bien merci.
Accord à côté sur.
Là, je souhaitais quand même échanger avec vous sur la situation de la justice, parce qu'on l'a un peu abordé tout à l'heure quand on dit à surpopulation, mais la France est régulièrement condamnée aussi pour sa lenteur, je dirais. Donc on a le temps que ce soit jugé, ça met toujours un temps fou, et on est souvent cité pour beaucoup de détentions provisoires longues.
Je pense que ce n'est pas tout à fait le même problème. Effectivement, nous sommes pointés du doigt pour des problèmes de lenteur de la justice. Mais c'est surtout, je pense, une problématique en matière civile. Certaines juridictions sont sous l'eau, ou alors tout ce qui concerne des fois le conseil des prud'hommes, des situations familiales où on a besoin de réponses relativement urgentes. Et quand ça met 2-3 ans pour une situation familiale, vous voyez bien que ça ne contribue pas à apaiser les situations. Pareil en matière prud'homale, quand un salarié qui a été licencié attend plusieurs années pour pouvoir être indemnisé par Pôle emploi, pour pouvoir repartir sur autre chose, ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc c'est surtout dans ces domaines-là que nous sommes pointés du doigt pour la lenteur de la justice, parce qu'il n'y a pas assez de greffiers, pas assez de magistrats, pas assez de moyens, de manière générale. La détention provisoire, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, il peut arriver effectivement pour des instructions criminelles que des personnes attendent longtemps, par exemple des sessions d'assises, pour qu'elles puissent y être jugées et qu'en attendant, leur détention soit prolongée périodiquement. Mais moi, je dirais qu'au contraire, la détention provisoire problématique telle qu'on la connaît vient peut-être d'une extrême célérité de la justice. C'est-à-dire que pour ces questions-là, on utilise beaucoup une procédure qui est appelée la comparution immédiate, qui est une procédure extrêmement violente où une personne sort de garde à vue et à l'issue de sa garde à vue, elle comparaît devant un tribunal et en général, elle part en détention 9 fois sur 10. Donc ce sont des procédures qui sont extrêmement pourvoyeuses d'incarcération et qui sont utilisées pour de plus en plus d'infractions. Donc c'est dans ce cadre-là que les personnes vont très souvent en détention provisoire. Même si, par exemple, si elles demandent un délai pour préparer leur défense, elles sont finalement jugées 1 mois et demi, 2 mois plus tard, et qu'elles sont relâchées ou relaxées, n'empêche qu'elles ont été pendant quelques semaines, 1 mois, 2 mois en détention provisoire. Ou si elles sont, par exemple, relaxées en appel, eh bien pareil, elles auront accompli leur peine en prison, et à ce moment-là, il ne reste plus qu'à se tourner vers la commission d'indemnisation pour les emprisonnements injustifiés. Donc, je dirais au contraire qu'en matière civile, effectivement, c'est la lenteur, mais ça ne nous concerne pas directement, sauf pour la partie des criminels. Et au contraire de ça, les procédures rapides sont pourvoyeuses d'incarcération et de détention provisoire.
Alors que l'objectif était justement de raccourcir et de ne pas envoyer en prison si ça ne se justifiait pas.
Je pense que l'objectif de ces procédures était surtout d'apporter une réponse pénale immédiate et rapide. C'est pas tant dans l'intérêt du prévenu. Je pense que c'est, je sais même pas si c'est vraiment dans l'intérêt de la société au final. Je pense que c'est peut-être plus, on donne pas de moyens. Comme on n'a pas de moyens à donner pour faire avoir des audiences, on va dire plus d'audiences, plus de magistrats, plus de greffiers, qu'est-ce qu'on fait ? On fait rentrer un certain nombre d'infractions dans le champ des procédures d'urgence, qui étaient au départ, avant, autrefois, les flagrants délits. Mais il y a de plus en plus de délits qui rentrent dans ces procédures-là. Et ça permet d'apporter une réponse immédiate qui, de fait, est violente, puisque la défense n'a pas vraiment de place, ou très peu de place, c'est réduit à peau de chagrin. C'est très difficile de défendre dans ces conditions-là. Les magistrats ont aussi très peu de temps pour travailler correctement leur dossier, pour rendre leur délibéré. Enfin, bon, il n'y a rien qui va dans cette procédure.
D'accord. Alors, les alternatives, puisqu'on a l'emprisonnement, on a des procédures qui sont longues dans certains cas. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme alternative à l'enfermement ? Bon, on se souvient de Christiane Taubira qui avait tout un projet qui a été le houlet, donc je pense que ça n'a jamais été mis en place. Donc, il y a quand même des alternatives possibles.
Mais il y a plein de choses qui sont possibles. Alors, on en parlait justement en venant ici, on en parlait entre nous, par exemple, pour la problématique des violences conjugales, qui est un véritable problème de société. Qu'est-ce qu'on fait quand, par exemple, une famille, un couple se déchire, il y a une infraction et des violences qui sont commises. Le plus souvent, c'est un homme contre une femme, mais ça peut être autrement, mais en tout cas, le plus souvent, c'est ça, en présence d'enfants. Donc, le but dans ce cas-là, c'est de mettre la femme et les enfants à l'abri. Donc, on les maintient. Alors, soit on leur fournit un logement d'urgence et on les extrait de leur logement, mais les places sont rares. Soit on les maintient dans leur logement et en fait, c'est le monsieur, la personne violente, qui se retrouve en détention parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autres options. Il n'y a pas de résidence secondaire, il n'y a pas de famille, etc. Donc, qu'est-ce qui reste ? La prison. Alors, au lieu que ce soit la prison, pourquoi on n'imagine pas, comme ça se fait déjà, mais à plus grande échelle, eh bien, des logements où il y a une prise en charge globale qui est faite pour ces personnes, pour ces conjoints violents, par exemple, où non seulement on pourrait tout imaginer, ne serait-ce que par exemple s'ils travaillent, ils ne perdent pas leur emploi, ils peuvent même, pourquoi pas, payer une contribution pour ce logement-là. Il y a une prise en charge globale qui est adaptée avec des psychologues, avec un certain nombre de choses qui se mettent en place pour accompagner de façon globale cette personne violente. Et ça me semble beaucoup plus intéressant que l'emprisonnement, puisque la personne violente peut continuer, enfin qui a commis un acte violent plus exactement, peut quand même, si elle a un emploi, continuer à travailler, peut, s'il le faut, verser une pension alimentaire à ses enfants, une contribution qui des fois est nécessaire. Et donc voilà, il y a plein de réponses qui peuvent être possibles autres que la prison, ne serait-ce que par exemple ce cas précis que je viens de vous décrire.
Et sur la drogue, il y a aussi d'autres situations possibles que de les mettre en prison, parce que ils rencontrent, comme vous disiez, des plus forts qu'eux et ils élargissent leur champ de...
Bah, la drogue, oui. Alors, vous avez tout ce qui est trafic de stupéfiants. Bon, je ne sais pas si vraiment l'État arrivera un jour à gagner la guerre contre les stupéfiants. Il me semble que c'est quand même une guerre un peu vaine. Et puis, il y a d'autres pays qui ont choisi d'autres options, par exemple les Pays-Bas, l'Espagne. Une dépénalisation de certains comportements qui fait qu'effectivement, bah, y a moins de personnes détenues pour ces motifs-là.
Alors, le ministre, Éric Dupond-Moretti, annonce une réforme de la justice et, je cite, il dit « La justice doit être plus rapide, plus protectrice, plus efficace, plus proche, plus exigeante. » Alors, est-ce que pour vous, cette réforme va répondre à tous les problèmes que nous avons soulevés, là, depuis une demi-heure ?
Alors moi, ce que dit le ministre, de manière générale, j'ai toujours tendance, peut-être à tort, peut-être à raison, de croire que c'est ça relève de l'effet d'annonce et qu'on peut mettre tout ce qu'on veut derrière ces mots-là. Il me semble aussi que ça concerne plutôt la justice civile que la justice pénale, puisque la réponse en matière pénale, c'est surtout la construction de prisons, plus de moyens qui sont complètement phagocytés, on va dire, par le budget pénitentiaire. Alors, peut-être en matière de médiation, il y a un volet qui peut être intéressant à développer en France qui ne l'est pas assez, c'est ce qu'on appelle la justice restaurative. C'est des mises en situation de personnes condamnées avec des personnes victimes. Alors, ce n'est pas forcément les victimes de ces personnes condamnées, mais c'est pour des infractions qui peuvent être comparables. Voilà, exactement. Personne n'a rien à y gagner. C'est-à-dire que la personne condamnée n'a pas gagné des remises de peine, donc elle ne le fait pas dans ce but-là. C'est vraiment dans un but de compréhension réciproque. Et c'est quelque chose qui paraît, qui vient notamment d'Amérique du Nord, notamment du Canada, qui sont beaucoup plus en avance que nous sur ces questions-là, et qui semble être une voie intéressante de réflexion et de compréhension pour les victimes et de réflexion pour les personnes condamnées. Donc c'est quelque chose peut-être qui gagnerait à être développé et qui ne l'est pas assez. Voilà ce qu'on peut mettre dans le volet pénal de cette réforme-là.
Alors, merci. Alors, pour terminer, donc d'abord, le livre « Prison, Rinaudot, Royan d'Orange », l'éditeur La Boîte à Bulles. Un autre livre sur les prisons, une autre BD sur les prisons, mais c'est aux États-Unis, « Perpendiculaire au soleil », Cuny Le Calais. C'est un dialogue entre un jeune condamné et un journaliste, vous connaissez peut-être. Il y a pas mal de livres sur le climat. Donc d'abord, le Jean Covici, qui a été la meilleure BD vente de l'année, Le Monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique, Jean Covici et Christophe Blain, Saison brune, Scorzoni, c'est sur le réchauffement climatique, Algues vertes, L'Hérault, donc qui devrait être en film. Et puis on voit des livres transcrits en BD, ce qui est relativement nouveau, où là on a Indignez-vous, la BD de Stéphane Hessel, le livre de Stéphane Hessel qui vient de sortir en BD. Alors Frédéric Debony, et là il y a un scénariste et une illustratrice. Donc quand on disait au début les duos, trios pour le livre, voilà un autre exemple intéressant. Alors vous pouvez trouver le livre et tous ceux que je viens de citer à la librairie Dernier Rempart à Antibes et dans toutes les bonnes librairies, c'est comme ça qu'on dit. Vous pourrez réentendre Fabrice, Rosanna et Claudia, Katia, le jeudi 9 à 20h. Et vous pourrez rencontrer Fabrice le 8 avril à Antibes. Il participera à la manifestation organisée par la librairie Dernier Rempart pour l'art sur la ville. Merci. Un mot ?
Oui, un tout dernier mot pour revenir au BD que vous présentiez. Bande dessinée, prison, il y a Ancienneté d'un auteur qui s'appelle Bast chez la Boîte à Bulles aussi, qui la scénarise et illustre aussi. Et il y a Symphonie carcérale, qui a été écrit par Romain Duterre et illustré par, je ne sais plus son prénom, le nom c'est Bouquet, et les éditions c'est chez Steinkiss. Ça c'est des BD autour de la prison.
Voilà, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de participer à mon émission. Et on se retrouve le mois prochain.